VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Bamako, 15h à Kigali, bienvenue à notre journal. On commence par le bras de fer États-Unis-Chine. Pékin a assuré ce vendredi ne pas craindre de payer le prix d'une guerre commerciale avec les États-Unis, après que le président américain Donald Trump eut doublé les enchères en menaçant de viser les importations chinoises à hauteur de 100 milliards de dollars. Le point avec Anne Albertson.
Donald Trump s'est lancé dans une lutte sans merci contre le déficit commercial des États-Unis, qu'il voit comme le signe de la faiblesse de ses prédécesseurs qui ont laissé le reste du monde tirer profit des États-Unis. Et la Chine est plus que jamais dans son collimateur. Le ministère chinois du commerce a réagi sans tarder aux derniers agissements du président américain. La Chine est prête à aller jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. Pékin a pris soin d'établir sa liste de futurs produits à taxer pour frapper le plus durement possible des régions qui ont voté en faveur de Donald Trump aux États-Unis. La Chine a aussi déposé plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce concernant les mesures tarifaires visant des produits chinois que les États-Unis entendent mettre en place. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, en visite à Moscou jeudi, en a appelé à la mobilisation internationale contre Washington. La perspective d'un conflit commercial en bonne et due forme inquiète les investisseurs et les cours de la bourse en ont pâti ces dernières semaines.
Le partage des eaux du Nil maintenant, une nouvelle session de pourparlers pour répondre aux inquiétudes de l'Égypte sur un méga barrage que construit l'Éthiopie sur le Nil a échoué. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi un ministre soudanais impliqué dans les discussions. Les ministres des Affaires étrangères et les chefs des services de renseignement d'Égypte, du Soudan et d'Éthiopie ont tenu jeudi à Khartoum des négociations marathon pour essayer de trouver une solution à l'épineux problème du partage des eaux du Nil entre les trois pays. Idrissa Sédoudia.
L'Égypte craint que la construction du gigantesque barrage de la Renaissance sur le Nil Bleu, entamé en 2012, n'entraîne une réduction du débit du fleuve dont elle dépend à 90% pour son approvisionnement en eau. L'Égypte insiste sur ses droits historiques sur le fleuve garantis par des traités datant de 1929 et 1959 qui accordent près de 87% du débit du fleuve à l'Égypte et au Soudan. Le barrage de la Renaissance est censé devenir la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique. Il devait initialement commencer à fonctionner en 2017, mais selon les médias éthiopiens, sa construction n'est achevée qu'à 60%. Après s'être opposé au projet, le Soudan soutient désormais le barrage. Le Nil Bleu, qui prend sa source en Éthiopie, rejoint le Nil Blanc à Khartoum pour former le Nil qui traverse le Soudan et l'Égypte avant de se jeter dans la Méditerranée.
Rwanda, les cérémonies de commémoration du génocide se tiennent demain dans le pays. L'association française Survie demande au président français Emmanuel Macron de reconnaître enfin la responsabilité de la France alors qu'un Rwandais naturalisé français a été interpellé hier à Yaoundé. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
On demande à Emmanuel Macron de reconnaître officiellement que la France a soutenu le régime génocidaire avant, pendant et après les massacres, a déclaré Thomas Borrell de l'association Survie. Paris a toujours démenti toute implication dans les massacres. Par ailleurs, Philippe Atégué Kimana, devenu Philippe Manier depuis sa naturalisation française, a été interpellé à Yaoundé après un mandat d'arrêt lancé par un tribunal de Paris. Cet ancien adjudant-chef rwandais est soupçonné d'avoir organisé et participé à des massacres de milliers de personnes dans la région de Butare. Il avait fui après le génocide et s'était depuis domicilié dans la région de Rennes en France. Selon l'ONU, près de 800 000 personnes ont été tuées en 3 mois dans des massacres déclenchés le 6 avril 1994. 24 ans après, Kigali accueille demain samedi les cérémonies de commémoration. Pour les survivants, Ibuka signifie « souviens-toi », un devoir de mémoire.
Burundi, l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'homme, une ONG internationale, donne l'alerte concernant le procès de l'activiste burundais de la société civile Germain Rukiki, actuellement en cours dans le pays. Poursuivi dans un premier temps pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, M. Rukiki, en détention depuis le 13 juillet 2017, est maintenant accusé notamment d'être l'auteur intellectuel des infractions d'assassinat de policiers et de civils. poste qu'il a été employé de l'ONG Akad Burundi, organisation interdite, soupçonnée par Bujumbura d'implication dans le coup d'État manqué du 13 mai 2015. Le parquet burundais a requis la réclusion à perpétuité contre Germain Rukiki.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
République démocratique du Congo, un prêtre enlevé depuis 4 jours a été libéré contre rançon dans l'est du pays. Nous venons d'obtenir la libération de l'abbé Célestin Gango après beaucoup de tractations avec les ravisseurs, a déclaré à l'AFP l'abbé Louis de Gonzague Nzabanita, vicaire général du diocèse de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Nous avons versé une rançon, ce qui a abouti à la libération de notre confrère, a précisé l'abbé Nzabanita, sans donner le montant versé aux ravisseurs qui exigeaient 500 000 dollars. RDC toujours. La République démocratique du Congo fait des progrès ces derniers mois et semble s'acheminer vers l'organisation d'élections le 23 décembre 2018. C'est ce qu'affirme un rapport de l'International Crisis Group. Cette ONG de recherche de solutions des conflits a relevé des inquiétudes qui persistent sur la transparence et la qualité du scrutin. Plus de détails avec Eddie Sango.
Poker électoral en RD Congo est l'intitulé du rapport. International Crisis Group estime que les perspectives de la tenue d'élections cette année se sont améliorées. L'ICG cite comme élément des progrès la publication du calendrier électoral, la promulgation de la loi électorale et la fin de l'enregistrement des électeurs par la commission électorale. Pour l'ICG, le régime de Kinshasa est plutôt en position de force. Il contrôle fermement l'État et la machinerie électorale et l'opposition reste divisée. L'ONG prévient que le climat d'insécurité pourrait servir de prétexte pour reporter à nouveau ces élections. L'ICG appelle tous les acteurs à contribuer à l'organisation des élections crédibles et recommande au gouvernement d'autoriser tous les candidats à se présenter, à moins que des obstacles juridiques clairs ne s'y opposent. Un des opposants, Moïse Katumbi, après avoir été condamné dans une affaire immobilière, est aussi poursuivi dans une affaire de recrutement des mercenaires.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Burkina Faso, le procès des auteurs du putsch manqué de septembre 2015 a été suspendu et renvoyé au 9 mai. Les généraux Djibril Bassolé et Gilbert Diendéré, les cerveaux présumés du coup d'État et les 82 co-accusés, devaient être entendus dans cette phase du procès. Afrique de l'Ouest toujours, l'ONG de défense des droits de l'homme Synergie Togo, basée à Paris, ainsi que plusieurs associations locales togolaises, ont dénoncé hier l'arrestation mercredi à Lomé d'un éminent défenseur des droits humains. Le point avec Jacques Aristide.
L'ONG demande la libération sans délai de Asiba Johnson, président de Réjade Togo, regroupement des jeunes africains pour la démocratie et le développement. Monsieur Johnson, dont la santé est fragile, doit pouvoir recevoir des soins appropriés. Selon Synergie Togo, il a été interpellé à Djidjolé et il est gardé au service de renseignement et d'investigation. D'après un responsable de la police, son arrestation fait suite à un rapport publié en février dernier sur le nombre de victimes de la répression des manifestations politiques depuis le début de la crise togolaise en août dernier. Selon ce document, les répressions ont fait plus de 100 morts, généralement par balle ou par exécution extrajudiciaire. Le gouvernement avait rejeté le contenu de ce rapport, dénonçant des affirmations tendancieuses et irresponsables et avance un bilan de 14 morts, dont 2 militaires. De leur côté, 3 associations locales demandent au gouvernement une enquête impartiale pour faire la lumière sur le nombre exact d'exactions commises pendant les nombreuses manifestations de l'opposition.
La lutte contre les djihadistes en Afrique de l'Ouest maintenant. Au Mali, 2 casques bleus tchadiens de la MINUSMA, la mission onusienne sur place, ont été tués et 10 autres blessés jeudi soir dans une attaque au mortier contre leur camp à Agelok dans le nord-est. C'est ce qu'a annoncé l'ONU. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a condamné cette attaque et rappelé que les attaques visant les casques bleus peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international. Et pour terminer, en Afrique du Sud, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma a affirmé ce vendredi être la victime d'accusations politiques au premier jour du procès pour corruption qui lui est intenté dans une affaire de vente d'armes vieille de près de 20 ans. Deux mois après sa démission, M. Zuma a brièvement comparu dans le box des accusés de la haute cour de Durban dans le nord-est. L'audience au procès qui a été renvoyée 8 jours.